Pauline Pucciano, Titania 4.0. Chapitre 14. À rebours. Danton n'avait rencontré aucune difficulté pour sortir de la ville. L'Île-de-France sinistrée n'intéressait plus personne, et comme un trou noir entièrement tourné vers son centre, Paris se moquait éperdument de ses bordures. Au-delà du cercle de la mégapole, c'était le vide, l'espace intermédiaire qui ne présentait pas plus d'intérêt que les milliards de kilomètres sans matière qui séparaient les planètes. Il avait retrouvé la maison dans un état correct. Il y avait suffisamment à manger et à boire pour 3 jours. En arrivant, il avait eu une bouffée de nostalgie très douloureuse, car la silhouette d'Olympe lui semblait cachée derrière chaque meuble, chaque arbre et chaque porte. Il avait dû faire un effort mental considérable pour chasser son fantôme qui, familièrement et amicalement, apparaissait partout. Titania, assez docile, avait visité la maison comme si c'était la première fois, tout en manifestant une connaissance inconsciente des lieux. Et en effet, elle y avait passé plusieurs semaines, seule avec Jean, lorsqu'ils avaient pris la fuite. Par exemple, elle se dirigea d'instinct vers la petite porte latérale, la seule utilisable car la serrure de la grande porte était coincée. Elle ne demanda pas où se trouvaient les toilettes lorsqu'elle en eut besoin, et à 1000 autres petits détails, Danton percevait qu'une forme de mémoire lui était restée. Le premier jour, Danton l'observa, fit quelques activités avec elle, évitant tout sujet de stress pour sa protégée, qu'il appelait scrupuleusement Daphné. Titania, malgré son corps de femme, paraissait presque avoir rapetissé. Son maintien souverain était devenu prime sautier. Elle paraissait ignorer l'existence de ses implants, et ne manifestait aucun intérêt pour sa propre image qu'elle ne regardait pas quand elle passait devant une vitre. Le miroir avait de toute façon été prudemment recouvert d'une étoffe. Quand elle eut découvert le trésor de livres papier qui s'étalait dans les étagères branlantes, elle passa de longues heures à lire, susautant distraitement une mèche de ses cheveux. Elle était totalement indifférente à l'image qu'elle donnait. Elle ne manifestait pas plus de curiosité pour le Hervé de Danton que pour le monde extérieur. Titania paraissait habituée à vivre l'instant présent et à tirer le maximum de chaque lieu, de chaque situation. Elle ne posait aucune question, comme s'il était naturel qu'elle se retrouvât avec un inconnu dans une maison isolée, sans nouvelles de sa mère. Il y avait en elle une forme de sérénité étrange qui contrastait violemment avec la gravité de ses symptômes. Tout ceci ne paraissait pas de très bon augure à Danton. Cette jeune femme avait joué tellement de rôles, que ce soit par force, par choix ou par hasard, qu'elle s'était perdue dans ce labyrinthe, et ce dernier masque involontaire, imposé par sa folie, avait un accent tragique. Le lendemain cependant, alors qu'ils avalaient le petit déjeuner, composé de quelques biscuits secs et d'un soda affreusement sucré, Danton tenta une première approche. « Dis-moi, Daphné, est-ce que tu pourrais me parler de ta maman ?»«
Oui, bien sûr. » « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?»«
Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que tu es heureuse avec elle ?» Titania parut réfléchir longuement à cette question. « Je ne me suis jamais demandé ça, » finit-elle par dire. « Et qu'est-ce que tu dirais ?»«
Je pense que oui. »«
Tu veux jouer à un jeu ?»«
D'accord. »«
Je te pose une question et toi, tu réponds ce qui te passe par la tête. » Titania se redressa un peu sur sa chaise et but goulûment une gorgée de soda. « Je suis prête. »
Si une fée t'offrait un don, que choisirais-tu ?
Un frère jumeau ? Non, une sœur jumelle. Elle pourrait poser pour les photos pendant que je pars jouer.
Si tu devais changer quelque chose chez ta mère ?
Vous voulez dire dans son corps ?
Non, dans sa personne, dans ses habitudes, dans ses goûts.
Je changerais Maître Régenville.
Pourquoi ?
Parce que je ne l'aime pas.
Et si tu devais changer quelque chose chez toi ?
La couleur de mes yeux.
De quelle couleur sont-ils ?
Au naturel, ils sont marrons. Mais je ne les garderai pas comme ça.
Pourquoi ?
C'est trop banal.
Et si tu étais un animal ?
Un ver de terre, dit Titania en gloussant.
Et ta mère ?
Une panthère.
À quoi veux-tu ressembler quand tu seras grande ?
À Jade Arial.
Pas à ta mère ?
Non.
Tu ne la trouves pas belle ?
Si.
Mais tu ne veux pas lui ressembler.
Je ne peux pas lui ressembler.
Danton soupira. Titania se prêtait au jeu. Mais son esprit était fermé hermétiquement et leur conversation tournait en rond. Il décida d'accélérer un peu la cadence. «
Maintenant, je te dis un mot et tu m'en réponds un autre, un seul. La première chose qui te passe par la tête. Tu as compris ?»«
Oui. » »«
Alors c'est parti.
Œil ?
Photo.
Enfant ?
Vêtement.
Manger, nutriments. Voyage, ennui. Beauté, travail. Miroir, maquilleuse. Maman, menteuse. Danton s'arrêta, et Titania, se rendant compte de ce qu'elle avait dit, éclata de rire. « Tu vois, il est amusant mon jeu, » dit Danton. « Pourquoi as-tu dit ça ?»«
Je ne sais pas. » « Ta mère t'a déjà menti ?»«
Oui. »
« Plusieurs fois ?»«
Oui. »
« À quel propos ?»
Titania tordit sa bouche et fronça son nez pour mieux réfléchir. « Elle m'a juré que c'était la dernière fois, plein de fois, mais ce n'est jamais la dernière fois. »«
La dernière fois que quoi ?»
Titania pinça les lèvres. « Je n'aime pas dire du mal de maman. »«
Quel âge as-tu, Daphné ?»«
9 ans. »« Est-ce que tu vas bientôt fêter tes 10 ans ?»«
Oui, peut-être. » « Le problème, c'est que nous serons chez un ami de maman à cette période. »
Danton observa un silence. Il n'arrivait pas à sortir Daphné de son horizon étroit, celui de la vie mondaine et bohème d'une petite milliardaire de 9 ans.
« As-tu déjà subi des opérations esthétiques ?»«
Oui, 3. »«
Lesquelles ?»«
Les oreilles, le nez et, la plus douloureuse, l'allongement des jambes. »«
À quel âge ?»«
Quand j'étais petite, les oreilles et le nez à 4 ans, les jambes à 6. »
Et tu dois en faire d'autres ?
Maman a dit qu'à l'adolescence, il y aurait sûrement beaucoup de choses à faire refaire. Elle dit que l'adolescence, c'est une catastrophe.
Est-ce qu'elle-même passe beaucoup de temps dans les cliniques ?
Je dirais 1 semaine par mois.
Et où vas-tu pendant ce temps ?
Maman ne veut pas que je m'attache à une autre femme, alors je suis gardée par Maître Régenville. Et puis des fois, je reste toute seule.
Maître Régenville n'est pas gentil.
Non.
Et ta mère, quand elle revient ?
Elle a souvent des douleurs, des migraines. Elle n'est pas en forme pendant quelques jours, il ne faut pas lui parler.
Et après, elle doit s'occuper de ses affaires.
Que sais-tu de ses affaires ?
C'est beaucoup d'argent, des choses très importantes. Et puis quand elle a fini, elle fait la fête. Je l'accompagne partout. C'est là que nous prenons toutes ces photos.
Il y a des enfants dans ces fêtes ?
Titania sembla surprise.
Des enfants ?
Non, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur jumelle.
« À quand remonte la dernière fois que tu as parlé à un enfant ?»
Elle réfléchit avec une moue exagérée.
« À Noël, quand nous avons fait les photos dans les grands magasins. Des enfants, il y en avait partout, et certains m'ont parlé. »
Danton, habitué à tout écouter, même le plus choquant, avec le même air d'indifférence, ne marqua aucune réaction.
« Où prenez-vous vos repas ?»«
Dans des restaurants où il faut se tenir droite, et à la maison, on mange souvent des nutriments. »
« Qui s'occupe de ton instruction ?»
« Maman, quand elle a le temps, et puis je lis beaucoup, et elle m'achète tous les pédagogos que je veux. »
Danton marqua une nouvelle pause. Il se leva pour débarrasser la table et jeta un œil dehors. Le jardin était vert et frais.
« Veux-tu jouer un peu dans le jardin ?»
Titania eut un large sourire, qu'il ne lui avait jamais vu lorsqu'elle était adulte.
« Je pourrais me salir ?»«
Autant que tu veux, » dit Danton en souriant. Elle lui sauta au cou et l'embrassa sur la joue, avant de s'élancer dehors. Il la regarda un long moment par la fenêtre. Elle s'amusa d'abord à marcher en équilibre sur le rebord de la fontaine, puis elle disparut derrière la maison en criant à tue-tête. Dans la maison silencieuse, si quelqu'un avait vu cet homme vieillissant retirer ses lunettes et plonger son regard myope dans le vide, il se serait demandé ce qu'il faisait. En réalité, il réfléchissait. L'enfance de Titania se dessinait progressivement. Une enfance solitaire, une mère narcissique, une pression quotidienne pour être belle. Tout ceci était triste, mais après tout relativement banal. Il devait y avoir autre chose, une chose qui s'était passée après, une chose que Titania avait occultée, tout comme la mort de sa mère aujourd'hui. Danton utilisa une technique respiratoire pour se détendre et ouvrir son esprit, puis y récapitula. Titania avait tué sa mère après s'être précipitée dans ses bras. Irina avait dû dire quelque chose qui avait déclenché sa colère, et elle l'avait tuée sans réfléchir, d'instinct. Mais elle n'avait pas supporté cet acte et était revenue en arrière, comme avec les souvenirs 3D dont elle était coutumière et que l'on peut enregistrer, effacer ou rembobiner. Seulement, elle n'était pas revenue juste avant l'événement, ce qui était le cas le plus fréquent dans ce genre de traumatisme, mais 10 ans en arrière. Pourquoi ? Pourquoi à cette époque précisément, celle de ses 9 ans ? Titania devait y voir la période la plus heureuse de sa vie. Il avait dû se passer quelque chose de terrible après. Quelque chose qui était lié au fait de tuer sa mère, parce que Titania s'était débarrassée de ses 2 souvenirs d'un coup, comme s'ils faisaient partie d'un même ensemble. Qu'est-ce qu'une fillette pourrait éprouver pour sa mère qui serait liée à sa mort ? très probablement un désir de la voir mourir. Titania, après cet événement inconnu encore, que Danton ne devinait pour le moment qu'à travers des voiles inquiétants, en avait tellement voulu à sa mère qu'elle avait consciemment souhaité sa mort. Cela avait été le début d'une forme de haine qui avait miné Titania jusqu'à maintenant. Une haine qui expliquait aussi bien sa disparition, ses addictions, son contrat spécial que son acte de la chapelle expiatoire. Et cette haine, longtemps tournée contre elle-même, avait fini par atteindre son objet. Titania avait réalisé son désir, elle avait tué sa mère, et cette vérité était si insupportable que son esprit s'en était débarrassé ensuite, effaçant toute trace. Danton se leva, remit ses lunettes et sortit un instant dans le jardin pour voir où elle était. Elle grimpait maladroitement dans un saule. Qu'est-ce qu'une mère pouvait faire de pire à sa fille de 10 ou 11 ans? Avait-elle laissé maître Régenville abuser d'elle? Cela était possible, toutefois Danton n'y croyait pas particulièrement. Cela n'était pas cohérent avec le reste. Or, la psyché humaine était un labyrinthe doté d'une cohérence profonde, souterraine, qui était comme une lueur diffuse, le seul guide du psychologue dans les ténèbres de l'esprit. L'acte d'Irina devait faire sens avec le contexte, cette enfance mondaine, cette médiatisation, ce contrat spécial. Il devait se rapporter à l'apparence, à la métamorphose. Les voiles opaques que recouvrait encore l'événement se levaient petit à petit dans l'esprit de Danton. Apparence, métamorphose, chirurgie esthétique. Irina ne voulait pas que Titania grandisse, et elle l'avait maintenue en enfance à la force du scalpel. Cela, c'était cohérent. Il manquait toutefois quelque chose. Pourquoi Titania avait-elle sorti les griffes précisément à ce moment-là? Que lui avait dit sa mère lorsqu'elle s'était précipitée dans ses bras? Avait-elle pu exprimer son intention de tuer Jean et Mito? Cela était plausible, et cette situation lui en aurait rappelé une autre. Danton tenta de ralentir la cadence de son esprit pour mieux réfléchir, mais des intuitions fulgurantes lui venaient maintenant sans qu'il puisse savoir si elles étaient dignes de foi ou produites par son imagination. En admettant qu'il ait raison et que la réaction de Titania ait été dictée par la répétition d'une situation similaire, cela voulait dire qu'Irina avait peut-être déjà menacé, d'une manière ou d'une autre, des personnes proches de sa fille. Un amoureux, ou simplement un animal de compagnie lorsqu'elle était enfant? En tout cas, un être qui comptait beaucoup pour elle. Et c'est alors que Titania aurait commencé à la haïr. Le soir, autour du repas frugal que Danton avait préparé, Titania parut un peu mélancolique. Elle demanda plusieurs fois combien de temps il était prévu qu'il reste dans cet endroit. Danton tâcha de la rassurer et lui dit qu'il partirait le lendemain. Elle se coucha tôt, ayant à peine touché à son dîner. Dans la pénombre de cette maison retirée, Danton composa d'abord un message à destination de Jean. « T va bien, du moins physiquement. J'avance dans la compréhension de son cas, mais pas dans la restauration de sa mémoire. Les souvenirs 3D qui nous intéressent concernent les conflits mère-fille, mais également tout ce qui pourrait concerner un ami, un être auquel la petite D aurait pu s'attacher dans son enfance. Tout me laisse à penser qui l'aurait fait sortir de la vie de sa fille. Les souvenirs concernant des opérations ou des mutilations physiques seraient également précieux. » Puis, avec la sensation du devoir accompli, Danton appela son frère, qui décrocha presque tout de suite. « Comment ça va ?» demanda Robespierre, inquiet. « Je n'avance pas beaucoup avec notre jeune amie, mais elle est couchée, et maintenant c'est à Olympe que je pense. » Robespierre mit un moment avant de dire « Te retrouver dans la maison, ça doit être dur. » « Oui, tous les objets me parlent d'elle, chacun me rappelle un souvenir. Le bol est bréché parce qu'elle l'avait fait tomber un jour où elle était de mauvaise humeur. Les livres qu'elle aimait, son fauteuil. » Sa voix se brisa. « Je n'arrive pas à réaliser qu'elle est morte, » dit Robespierre tristement à l'autre bout du fil. « Dans cette maison, » articula Danton, « son absence est si vive, si réelle, si physique. » Il pleurait trop à présent pour pouvoir parler, mais il resta ainsi un long moment au téléphone avec son frère, dans un silence entrecoupé de soupirs et de reniflements. Parfois, Robespierre demandait d'une voix navrée, « Tu es toujours là ?» et Danton articulait d'une voix presque éteinte, « Oui, Kamel, je suis là. » Puis, lorsqu'il fermait les yeux, le spectre de son ami apparaissait derrière ses paupières, tendre, consolant, et il lui semblait qu'une main impalpable se posait doucement sur sa joue ruisselante.